Vous écoutez RTL.
Mais d'abord, la curiosité est un vilain défaut. C'est avec Sidonie Bonnet et Thomas Hugues et c'est parti.
Oui, émotion garantie tout à l'heure sur RTL. Nous allons plonger au milieu des requins avec François Sarano, l'ancien chef d'expédition du commandant Cousteau. C'est un conteur absolument exceptionnel et il va partager avec nous sa passion pour les squales, notamment son face-à-face avec un grand requin blanc.
Ça promet. Allez tout de suite sur RTL, un héros assassiné.
RTL. Martin Luther King est le plus célèbre défenseur des Noirs aux États-Unis. En 1955, Martin se fait connaître en prenant la défense de Rosa Parks.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le 28 août 1963, il prononce devant 250 000 Américains son célèbre discours « I have a dream ».
I have a dream.
RTL.
Un an plus tard, il est le plus jeune lauréat de tous les temps à recevoir le prix Nobel de la paix.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Martin Luther King au menu de notre curiosité. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi RTL. Merci de nous être fidèles sur la première radio de France. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, bonjour, salut les curieux. On est ensemble jusqu'à 15h dans cette émission. Vous le savez, on aime les grands destins, ces personnages qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Ces dernières semaines, on a raconté la vie de Vercingétorix, de l'astrophysicien Stephen Hawking. Dans quelques jours, vous découvrirez Nostradamus, le prophète, et donc aujourd'hui, Martin Luther King.
Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. C'était il y a 50 ans, le 4 avril 1968. Les journaux du monde entier ouvraient tous sur cette information.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.
C'était au Carnegie Hall de New York hier soir à 19h30. Sur la scène, Duke Ellington, vedette d'un gala de bienfaisance devant Duke Ellington, des milliers de Noirs. L'orchestre s'est arrêté, un homme est monté sur scène et comme vous venez de l'entendre, il s'est borné à dire « On vient d'assassiner Martin Luther King à coup de fusil ».
Archive RTL du 5 janvier 68, le lendemain de la mort du pasteur Martin Luther King. André Caspi, comment est-il tué ?
Il était sur le balcon de son motel. Il parlait avec ses collaborateurs et notamment avec son frère qui était aussi pasteur. Et puis un coup de fusil, une seule balle, il est tombé, il est mort. Pratiquement sur le coup. C'était le 4 avril 1968 à 18h01. Et immédiatement, d'ailleurs, la chasse à l'homme a été déclenchée. On a immédiatement recherché l'assassin ou les assassins, puisqu'on ne savait pas s'il y en avait un ou plusieurs. C'est une nouvelle brutale qui arrive dans un pays déjà traumatisé par d'autres assassinats et qui va déclencher toute une série de questions d'abord. Et ensuite, toute une série de manifestations violentes dans les villes américaines.
Est-ce qu'on connaît les derniers mots de Martin Luther King ?
Non, on ne les connaît pas. Il était en train de parler de ce qu'il allait faire. Et il s'apprêtait d'ailleurs à aller dîner chez un pasteur de Memphis, puisque la scène se déroule à Memphis, dans le Tennessee.
Qu'est-ce qu'il faisait à Memphis, dans le Tennessee, en avril 1968, Martin Luther King ?
Il était venu porter son aide aux éboueurs, parce qu'il y avait une grève des éboueurs à Memphis. La plupart des éboueurs étaient noirs. Ils étaient à la fois victimes de salaires inférieurs à ceux des blancs et aussi, d'ailleurs, à des traitements discriminatoires. Martin Luther King avait été appelé une première fois à Memphis. La manifestation avait dégénéré, elle est devenue violente. Il est reparti, puis il a promis de revenir à une condition. C'est que la manifestation soit non-violente, car Martin Luther King était un partisan de la non-violence, c'est un admirateur du Mahatma Gandhi. Donc il a fait cette manifestation, et puis cette manifestation devait se terminer en somme par une réunion chez le pasteur local que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est juste avant de partir pour cette réunion qu'il a été assassiné sur le balcon de son motel.
Sait-on qui l'a assassiné ? Par qui ce
meurtre a été
commandité ?
Oui, on sait très bien par qui il a été assassiné, puisque quelques jours après, enfin, mais même quelques semaines après, son assassin a été arrêté. Il s'appelait James Earl Ray et il a été arrêté à Londres. Il avait pris la fuite par le Canada et il s'apprêtait à rejoindre des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, peut-être même d'ailleurs encore plus loin, la Nouvelle-Zélande. Et son portrait ayant été diffusé, on a pu l'arrêter alors qu'il avait un faux passeport.
Mmh. André Caspi, grâce à vous, on va découvrir quelques grandes dates de la vie de ce destin extraordinaire de Martin Luther King. On a dû choisir, on commence avec 1947, quand il devient pasteur, comme son père, comme son grand-père. Est-ce que c'était pour autant une évidence qu'il devienne pasteur ?
Oui et non, il y a une dynastie de pasteurs.
Oui.
C'est-à-dire qu'au fond, il fait partie de ces Noirs du Sud profond, puisque il était originaire de Géorgie, d'Atlanta. Et c'est une tradition, au fond, pour s'élever dans la hiérarchie sociale, on passe par la fonction religieuse. Alors, son père était pasteur, comme vous l'avez dit, son grand-père l'était aussi. Mmh. Il devient pasteur, il a donc suivi des cours de théologie. C'est avant tout une ambition qui est religieuse, mais qui va rapidement devenir une ambition politique.
Et on va voir comment sa vie bascule une première fois en décembre 1955. Comment s'est-il fait connaître de l'opinion américaine ? Quel est son premier coup d'éclat ? La vie de Martin Luther King sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
C'était il y a 50 ans la mort de Martin Luther King, assassiné sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Memphis. On découvre le destin extraordinaire du pasteur américain dans la curiosité grâce à notre invité André Caspi. Alors on a choisi quelques dates majeures de sa vie parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais ces dates quand même, elles racontent quel personnage c'était. Nous sommes le 1er décembre 1955. Que se passe-t-il ce jour-là en Alabama ?
Eh bien écoutez, d'abord, il faut bien comprendre que l'on est dans le sud des États-Unis. Et dans le sud des États-Unis, la ségrégation raciale fait partie de la vie quotidienne. Dans les autobus, par exemple, il est normal, il est légal que les Noirs doivent aller à l'arrière de l'autobus et céder leur place aux Blancs.
Les Noirs ne s'assiedent pas à côté des Blancs dans le
bus. Non, les Noirs ne s'assoient pas à côté des Blancs et les Noirs ne peuvent pas être à l'avant de l'autobus ou dans la première moitié de l'autobus s'il y a des Blancs, puisqu'ils doivent reculer à mesure que les passagers Blancs entrent. Et alors, une femme noire, Rosa Parks, monte dans l'autobus et elle refuse. Elle refuse tout simplement d'aller s'asseoir derrière, comme il aurait été normal qu'elle le fasse.
Elle sera emprisonnée pour ça ?
Alors, elle sera évidemment emprisonnée et elle sera surtout soutenue par toute la communauté religieuse noire qui décide de boycotter les autobus de cette ville. Alors, le boycott dure plusieurs mois. Et finalement, il aboutit à l'instauration de la mixité, pourrait-on dire, dans les autobus. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est une première victoire, mais une première victoire qui correspond tout à fait à ce que je désignais tout à l'heure, c'est-à-dire la non-violence. Oui. Il n'y a pas eu de violence.
Le levier économique, en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire qu'on a fait pression sur la compagnie d'autobus. Oui. On lui a dit, écoutez, de deux choses l'une, ou bien vous cessez la discrimination et dans ce cas-là, vous continuez à gagner de l'argent, ou alors vous continuez la discrimination, mais nous, les Noirs, nous ne montons plus dans les autobus.
Oui, mais quel a été le rôle de Martin Luther King ?
Alors, Martin Luther King, lui, il a pris la tête de cette manifestation non-violente. Il est véritablement l'un des principaux meneurs de ce boycott, sinon même le principal meneur. C'est comme ça, en somme, qu'il crée le début de sa légende. Il a permis la suppression de cette discrimination insupportable dans les moyens de transport. Les moyens de transport de la ville,
oui.
Parce que c'est limité à la ville.
Oui, ce boycott va durer un peu plus d'un an, je crois. Est-ce que Martin Luther King a subi des pressions, des menaces pendant cette année ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ?
Vous devinez bien que quand il s'agit d'un boycott de ce genre, toutes les menaces sont possibles. Mais il résiste, et il résiste d'autant mieux qu'il est soutenu par la communauté noire. C'est-à-dire que la communauté noire a trouvé un leader. Jusque-là, elle n'en avait pas. Alors, il y avait eu un certain nombre d'avancées. Par exemple, peu avant, la Cour suprême des États-Unis avait décidé de mettre fin à la ségrégation scolaire. Là encore, dans les États du Sud des États-Unis, il y avait des écoles pour les Noirs et il y avait des écoles pour les Blancs. En principe, je dis bien en principe, cette différence ou cette différenciation est interdite. Ça veut donc dire qu'il y a des progrès qui sont décidés, pas forcément appliqués d'ailleurs, parce que c'est bien beau de dire les enfants noirs doivent aller dans les mêmes écoles que les enfants blancs, mais les enfants noirs, ils vivent pas dans les mêmes quartiers que les enfants blancs. Ce qui veut dire que à la ségrégation officielle succède une ségrégation de fait qui tient tout simplement à la séparation spatiale des communautés.
André Caspi, je voudrais qu'on revienne au rôle de Martin Luther King et au pouvoir finalement qui prend à ce moment-là dans la lutte pour les droits civiques, dans le mouvement des droits civiques. Il va sillonner l'Amérique, prononcer des centaines de discours. C'était un grand orateur, Martin Luther King.
C'est un très grand orateur. Les pasteurs sont de très grands orateurs. Ce sont des gens qui savent enflammer mais la foule, et qui savent surtout donner les références bibliques qui suscitent l'enthousiasme de la part de leurs auditeurs. Et de ce point de vue-là, Martin Luther King est irremplaçable. Non seulement il connaît bien sûr la Bible, mais ça, je peux dire, ça fait partie de son métier. mais d'un autre côté, il sait l'utiliser, et je crois que de ce point de vue-là, il a des qualités d'orateur incontestable.
Martin Luther King entrait dans l'histoire avec ce discours. Saviez-vous que cette phrase n'était pas prévue dans son discours « J'ai un rêve » et qu'il n'aurait pu ne jamais la prononcer ? On vous raconte pourquoi dans la curiosité. Vous êtes bien sur RTL.
Le 28 août 1963, à Washington, ce jour-là, sous le regard tutélaire de Lincoln, un jeune pasteur noir prononce un discours historique.
Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo.
La curiosité est un vilain défaut.
Une étape fondamentale dans le combat pour l'égalité des droits civiques en Amérique.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et un extrait de cette chanson signée John Baez, We Shall Overcome. C'était l'un des chants protestataires devenu en quelque sorte l'hymne du mouvement des droits civiques aux États-Unis, ou en tout cas l'un d'entre eux. On vous raconte le destin de Martin Luther King dans la curiosité avec l'historien André Caspi. Ce 28 août 63 dont on parle maintenant, Martin Luther King est à Washington. C'est pas n'importe quel jour. Qu'est-ce qu'on célèbre ce jour-là ?
Bah écoutez, tout d'abord, s'il est à Washington, c'est parce que le Congrès des États-Unis doit examiner une proposition de loi. Cette proposition de loi, elle aurait pour but d'établir les droits civiques pour les Noirs, c'est-à-dire l'égalité des droits entre Blancs et Noirs. Il faut vous rappeler qu'en 1963, le président, c'est John Kennedy. Et John Kennedy est assez prudent. Il veut bien soutenir cette proposition de loi, mais pas trop quand même. Parce que il sait qu'il y a un très grand nombre de législateurs qui ont été élus par les États du Sud. Ces législateurs sont des démocrates, comme Kennedy, et Kennedy ne veut pas, en somme, perdre une grande partie de sa base. Donc il y a une manifestation qui a pour but précisément de soutenir cette proposition de loi et d'influer sur le Congrès et sur le président des États-Unis.
Oui, et ce jour-là, on célèbre les 100 ans, je crois, de l'abolition de l'esclavage. Donc il y a aussi la coïncidence des dates. Elle n'est pas choisie par hasard.
On célèbre en effet l'abolition de l'esclavage dans le Sud, qui s'est produit pendant la guerre de Sécession. Mais ce qui est surtout important, c'est que c'est une manifestation de masse à Washington même, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres du Congrès et de la Maison Blanche.
Alors Martin Luther King va prendre la parole, son discours sera diffusé à la télévision, il s'adresse à l'Amérique tout entière. Comment et avec qui il va choisir ses mots ?
Je ne pense pas que Martin Luther King écrive ses discours. Il les prononce tout naturellement. Il sait faire des références bibliques.
Mais il y a l'un de ses conseillers, je vous interromps, Wyatt Walker, qui lui déconseille d'utiliser à la formule « I have a dream » parce qu'il l'a souvent utilisé justement dans ses discours. Et je crois que dans une première idée, Martin Luther King renonce.
Non, c'est-à-dire qu'il a peut-être renoncé, mais il n'a pas renoncé à l'utiliser, cette expression.
Ah bah oui, et heureusement.
Et alors, il faut bien noter qu'elle est au présent. « Je fais un rêve oui. ». Ça n'est pas « j'ai fait un rêve » comme on le traduit souvent. « Je fais un rêve ». Il est emporté par son enthousiasme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette assemblée, qui est composée en grande partie de Noirs, ressemble à l'assemblée qui peut exister dans un temple. On lui répond. Il y a un échange entre ceux qui écoutent et celui qui parle, qu'on est vraiment dans un transport d'enthousiasme pour célébrer cette prochaine égalité que l'on espère.
On écoute un autre extrait de ce discours.
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère.
L'année suivante, André Calvi, vous vouliez ajouter un mot sur...
Simplement dire que l'on entend bien derrière
la foule.
Les réactions de la foule. C'est-à-dire qu'il y a cet échange qui est fondamental dans le charisme de Martin Luther King.
En 1964, toutes les lois raciales sont abolies et Martin Luther King devient prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ce prix va changer pour lui ?
Bah, écoutez, il a une réputation mondiale. C'est important.
C'est une star.
Et d'un autre côté, en 1964, c'est un nouveau président des États-Unis, c'est Lyndon Johnson, puisque entre-temps, John Kennedy a été assassiné. Et Lyndon Johnson, qui vient de l'État du Texas, c'est-à-dire d'un État du Sud, est malgré tout favorable à une transformation de la société américaine. Et c'est lui qui fait voter deux lois très importantes. La première qui établit les droits civiques des Noirs et la deuxième qui, en 1965, établit l'égalité dans le droit de vote des Noirs et des Blancs. Donc il y a un changement profond qui se fait aux États-Unis. Mais notez bien que le changement n'est pas terminé. La meilleure preuve, c'est que jusqu'en 1967, il était interdit dans l'État de Virginie qu'un noir épouse une blanche ou qu'un blanc épouse une noire. C'est-à-dire que les mariages interraciaux n'étaient pas autorisés.
La curiosité continue sur RTL avec cette question. Martin Luther King s'attendait-il à être assassiné ?
Et puis juste après, on vous emmène pour une rencontre incroyable, à la fois effrayante et magique. On va plonger au milieu des requins.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité toujours avec l'historien André Caspi pour découvrir le destin de Martin Luther King, le pasteur King tué donc le 4 avril 1968. Est-ce qu'il s'attendait à être assassiné ?
Oui. On peut répondre oui, parce que plusieurs fois, il a évoqué cette possibilité. Il savait très bien qu'il avait affaire à des adversaires violents. Et il avait dit une fois ou deux qu'il avait déjà vu la terre promise. Encore une fois, une image biblique, c'est-à-dire qu'au fond, il se prenait un peu pour Josué qui avait vu la terre promise, mais qui n'entrait pas sur la terre promise parce qu'il meurt avant. Bon, il y a chez Martin Luther King cette idée qu'il est perpétuellement menacé. Et c'est vrai qu'il était menacé.
Est-ce qu'il se protégeait ? Est-ce qu'il était entouré de gardes du corps ? Parce que pour être assassiné sur le balcon de son hôtel à Memphis, ça veut dire qu'il ne prenait pas beaucoup de précautions.
Ben non, il ne prenait pas beaucoup de précautions. Il n'avait pas, il pouvait avoir quelques gardes du corps, c'est certainement. Des amis, en tout cas. Puisque quand il se déplaçait, c'était en groupe. Mais on ne peut pas appeler ça des gardes du corps. Si on compte par la sécurité qui entoure les hommes politiques et la sécurité qui entourait Martin Luther King, la différence est très forte. Et d'ailleurs, je vous signale que le président John Kennedy lui-même est assassiné en novembre 1963, ce qui veut donc dire que la sécurité, même pour un président, était loin, très très loin d'être parfaite. Donc il n'est pas surprenant que pour Martin Luther King en 1968, c'est-à-dire 5 ans plus tard, la probabilité d'un assassinat était loin, loin d'être exclue.
Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, ce sera le propre frère de John Kennedy qui sera lui aussi assassiné. Merci beaucoup André Caspi.
Merci à vous.
Je signale deux de vos livres, États-Unis 68, l'année des contestations, publié aux éditions Complex, et puis Les présidents américains, coécrit avec Hélène Harter, c'est aux éditions Texto. Merci.
Vous écoutez RTL.